VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anna Robertson. Au sommaire en ce mardi 16 juin 2015.
Les Tchadiens choqués par les attentats suicides de lundi matin à N'Djamena.
Je suis abasourdi et indigné en même temps que des actes comme ça se produisent encore au XXIe siècle. C'est bien dommage que nos systèmes de sécurité laissent entrevoir des brèches pour que les terroristes puissent en profiter.
Notre correspondant André Kodmajingar a recueilli les témoignages de ses compatriotes.
Le président nigérian Muhammadu Buhari veut se rendre au Cameroun pour renforcer les efforts régionaux contre Boko Haram.
C'est une nouvelle qui a été favorablement accueillie ici au Cameroun. Naturellement, dans une ville comme Douala, où les gens ont appris à mi-journée cette attaque arrogante de Boko Haram en pleine capitale tchadienne.
Le professeur Manassé Aboya-Endong de l'Université de Douala au Cameroun commentera ce projet.
L'Union africaine a décidé de déployer au Burundi des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires.
Et Jeb Bush est officiellement, depuis hier, candidat à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016.
Mais tout d'abord, le journal.
N'Djamena a été frappé lundi pour la première fois par un double attentat suicide qui a fait au moins 27 morts et une centaine de blessés. Le gouvernement tchadien en a attribué la responsabilité au mouvement islamiste radical Boko Haram. Le secrétaire général de l'ONU a condamné fermement ces attentats tout en saluant le rôle du Tchad dans la lutte contre la milice djihadiste.
Ban Ki-moon a souligné l'importance d'une collaboration accrue entre les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale pour lutter plus efficacement contre la menace présentée par le groupe terroriste dans la région et il a salué les progrès réalisés quant à l'opérationnalisation de la force multinationale opérationnelle interarmée.
Visite du président français en Algérie. François Hollande a salué hier le combat commun mené par Paris et Alger contre la menace djihadiste. Les deux leaders ont notamment évoqué les situations en Libye et au Mali et le double attentat au Tchad. Les précisions d'Eddie Isango.
Le président Hollande s'est rendu en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Selon l'AFP, le chef de l'État français a souligné à son arrivée à Alger les combats communs menés par l'Algérie et la France contre cet ennemi terrible implacable auquel nous avons porté des coups et encore récemment ces dernières heures. Une référence au raid américain en Libye où aurait été tué Mokhtar Belmokhtar, l'un des chefs djihadistes du Sahel. À propos du Tchad, le président Hollande a déclaré lors d'une conférence de presse, il n'y a pas de doute que Boko Haram est responsable et devra rendre compte de cette nouvelle horreur humaine. Les dirigeants français ont exprimé sa gratitude au gouvernement algérien pour avoir tout fait pour retrouver les restes et les meurtriers de l'otage français Hervé Gourdel. Il s'est aussi rendu au sanctuaire des martyrs, monument en mémoire des victimes algériennes de la guerre de l'indépendance contre la puissance coloniale française.
L'Union africaine a décidé de déployer au Burundi des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires. L'organisation continentale a appelé lundi le pouvoir burundais à reprendre le dialogue sur le calendrier des élections par la voix de son commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui. Jean-Roger Bion.
Monsieur Chergui, qui s'exprimait à l'issue du 25e sommet de l'Organisation panafricaine à Johannesburg, a précisé que ses experts devront notamment vérifier le processus de désarmement des milices et autres groupes armés. Un contingent d'au moins 50 personnes est attendu. Celles-ci seront issues de la région et d'autres parties du continent en collaboration avec le gouvernement et les autres parties concernées. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a fait savoir aussi que la date des élections doit être déterminée dans le consensus. Le Burundi est sous haute tension depuis un mois et demi. La candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat après 10 ans de pouvoir a déclenché le 26 avril un mouvement de contestation émaillé de violences qui ont fait une quarantaine de morts et poussé plus de 100 000 Burundais à fuir vers les pays voisins, terrorisés notamment par des miliciens fidèles au président. L'opposition qui menace de boycotter les élections, déjà reportées une fois, accuse le pouvoir de vouloir passer en force. L'appui d'experts ou observateurs extérieurs fait partie de ces requêtes. Par ailleurs, elle dénonce le calendrier électoral fixé unilatéralement par le pouvoir.
Le président soudanais est arrivé hier à Khartoum. Omar Hassan al-Béchir a une nouvelle fois échappé à la Cour pénale internationale, alors que les Nations Unies et les États-Unis réclamaient son arrestation en Afrique du Sud, où il était venu participer à un sommet de l'Union africaine. Al-Béchir a décollé de Johannesburg lundi matin, en dépit de l'interdiction de quitter le territoire prononcée dimanche à son encontre par un tribunal sud-africain.
Malgré les poursuites engagées contre lui par la CPI en 2009 et 2010 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide dans le conflit au Darfour, M. al-Béchir s'est déjà rendu depuis dans des États partis à la CPI, tels que le Tchad, le Kenya et le Nigeria, sans être inquiété.
Le chef de guerre congolais Bosco Ntaganda sera jugé par la Cour pénale internationale à La Haye. Les magistrats de la CPI ont décidé lundi que le procès du chef de milice accusé de viol, de meurtre et d'enrôlement d'enfants en République démocratique du Congo s'ouvrira à La Haye et non en RDC, comme cela avait été un moment envisagé. Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, s'est constitué prisonnier en mars 2014 à l'ambassade des États-Unis dans la capitale rwandaise, Kigali. Il a ensuite été transféré à la CPI aux Pays-Bas.
L'ancien chef de la milice des Patriotes Congolais Unis, UPC, devra répondre de 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans des violences ethniques, voici plus de 10 ans en RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un rapport publié lundi constate que les pays qui connaîtront la plus grande poussée démographique dans les années à venir sont les moins bien équipés pour y faire face. Ce rapport du Population Institute, l'Institut de la population, identifie et classe les 20 pays confrontés aux plus grands défis démographiques à l'égard de la faim, la pauvreté, la pénurie d'eau, la dégradation de l'environnement et l'instabilité politique.
En tête des 10 pays les plus vulnérables, le Soudan du Sud, suivi de la Somalie, du Niger, du Burundi, de l'Érythrée, du Tchad, de la République démocratique, du Congo et du Soudan. Le rapport indique que la population mondiale devrait augmenter de 7,3 à 9,6 milliards d'habitants d'ici à 2050.
Le secrétaire général de l'ONU a ouvert hier à Genève les pourparlers interyéménites. Ban Ki-moon a appelé à une trêve humanitaire après de nouveaux raids aériens de la coalition saoudienne contre les rebelles houthis à Sanaa, la capitale du Yémen. Les précisions de Michel Joseph.
Plus de 2600 personnes ont été tuées depuis que la coalition a entamé ses opérations militaires au mois de mars pour freiner la marche des rebelles houthis soutenus par l'Iran. Il s'agissait aussi de soutenir le président yéménite Abd Rabou Mansour Hadi, alors réfugié dans la ville méridionale d'Aden. Selon Ban Ki-moon, la trêve humanitaire, qui doit coïncider avec le début du Ramadan, doit durer au moins 2 semaines et permettre l'envoi de l'aide d'urgence au Yémen. Aujourd'hui, l'existence même du Yémen est dans la balance. Alors que les parties se querellent, le Yémen brûle, a déclaré le patron de l'ONU que cite l'agence Reuters. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Yémen, Riyad Yassine Abdullah, rejette l'idée d'un cessez-le-feu. Si les Houthis continuent d'occuper le Yémen, de tuer des innocents, de tout détruire, de quelle sorte de cessez-le-feu s'agit-il ? S'est-il demandé. Le chef de la diplomatie yéménite a toutefois indiqué que son gouvernement pourrait envisager une trêve limitée si les rebelles Houthis acceptent de se retirer des villes et de libérer plus de 6000 prisonniers.
Et puis le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Nasser al-Wuaichi, aurait été tué apparemment par une frappe de drone américain, ont annoncé lundi les médias. AGPA a notamment revendiqué l'attentat qui a fait 12 morts à Paris le 7 janvier dernier contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo.
Selon la chaîne CNN, qui cite deux responsables de la sécurité yéménite, l'attaque contre le chef d'AGPA aurait eu lieu vendredi dans la région de l'Adramout.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces kurdes syriennes se sont emparées lundi de la ville de Tal Abyad, point de transit entre la Syrie et la Turquie, vital pour les djihadistes du groupe État islamique.
Il s'agit d'un coup dur pour l'organisation extrémiste dont le fief de Raqqa est ainsi menacé. Tal Abyad leur permettait de faire transiter des armes et des combattants vers les territoires contrôlés par la milice en Syrie.
Enfin, la Maison-Blanche a rappelé lundi que le projet de déploiement d'armes lourdes américaines dans les pays baltes et en Europe de l'Est reste au stade préliminaire et que de toute façon, il est conforme au mandat de l'OTAN de protéger les alliés européens.
On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Nathalie Barge.
L'économie camerounaise a le vent en poupe, estime la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le taux de croissance du Cameroun devrait s'établir à 6,3% en fin d'année, selon des projections de la CEMAC citées par l'APA. Selon les économistes, elle s'est située entre 5 et 6% entre 2014 et 2015. Les experts ont toutefois mis en garde contre les déficits infrastructurels et énergétiques du Cameroun qui, si rien n'est entrepris, risque d'entraver cet élan. L'architecte Pierre Goudiabi-Atepa a appelé hier à Dakar au retour des conseils nationaux d'urbanisme afin de corriger l'anarchie dans l'urbanisation et la construction au Sénégal. Il s'exprimait à l'occasion d'une journée de discussion entre l'Ordre des architectes du Sénégal et les élus locaux. Pierre Goudiabi-Atepa estime que toute demande d'autorisation de construire devrait être instruite par un architecte inscrit à l'Ordre. Les travailleurs migrants qui vivent en Europe ont transféré en 2014 109,4 milliards de dollars dans leur pays d'origine, indique le Fonds international pour le développement agricole dans un rapport publié lundi. Ces transferts apportent une aide précieuse à plus de 150 millions de personnes dans le monde, souligne l'agence onusienne citée par le journal La Tribune. Ajoutant que l'Afrique du Nord et l'Asie centrale sont les régions qui dépendent le plus des envois de fonds en provenance d'Europe.
On passe au sport avec Nicolas Pino. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les deux derniers représentants africains se préparent.
La nuit prochaine, le Sénégal et le Mali ont rendez-vous avec leur destin. Qualifiés en demi-finale du tournoi, les Sénégalais défieront les Brésiliens à Christchurch, tandis que les Maliens affronteront la Serbie le même jour à Auckland. C'est une première pour l'équipe du Sénégal, mais on se rappelle que le Mali avait fini troisième du Mondial Junior. C'était en 1999. Les Aiglons actuels rêvent désormais d'aller en finale. Écoutons Cheikh Fanta Madi Diallo. Il est le manager général du Stade malien et surtout ancien sélectionneur des moins de 20 ans maliens à la dernière Coupe du Monde. C'était en Colombie.
Ce n'est pas la première fois qu'on soit à ce niveau-là. La génération de Seydou Keïta et Mamadou Diarra Djila ont été déjà en demi-finale de cette compétition en 99, je pense. On est habitué de la compétition, mais cette année, vraiment, on a de très bons jeunes joueurs et puis ils ont fait une très bonne préparation. Donc, ça m'étonne, moi, personnellement, qu'ils soient à ce niveau-là. Il y a quand même de très bons joueurs là-dedans qui peuvent faire une carrière professionnelle. Je citerai, il y a Djadje Samaseko au milieu du terrain qui porte le numéro 8, je crois. Tous les attaquants qui sont très, très bons joueurs. Il y en a qui sont déjà dans les clubs professionnels européens en France, par exemple, à Lille.
Qu'est-ce que vous pensez du prochain adversaire, la Serbie, pour les Maliens?
Bon, ça va être très, très difficile en demi-finale. Hein. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde, donc ça va être très, très, très difficile.
Le technicien malien, Cheikh Fanta Madi Diallo. Et avec vous, Camille, la Coupe du Monde féminine au Canada, le dernier match des Ivoiriennes hier.
Un doublé de la Norvégienne Ada Hegerberg a permis à son équipe de remporter la victoire 3-1 lundi face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes ont tout de même obtenu plusieurs chances de marquer, tirant à 16 reprises en direction du but. Ange Nguessan a marqué à la 71e minute côté ivoirien, sans pour autant permettre aux Africaines de triompher. Grâce à cette victoire, la Norvège s'assure du deuxième rang du groupe B et, par le fait même, d'une place en ronde des 16. Et puis, l'Allemagne a confirmé sa première place du groupe B en battant la Thaïlande 4-0 lundi à Winnipeg.
Et on rappelle que le Nigeria et le Cameroun joueront leur qualification ce mardi.
Un mot de pétanque pour terminer.
L'équipe tunisienne a brillé au 5e championnat d'Afrique qui a eu lieu à N'Djamena au Tchad. Suite à une dernière victoire contre le Congo, la sélection rouge et blanc a été sacrée championne d'Afrique. L'équipe de Tunisie va commencer ses préparatifs pour le prochain championnat du monde. Il aura lieu en octobre 2016 à Tahiti.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour vous présenter les dossiers du jour. Deux attentats suicides lundi matin à N'Djamena, la capitale du Tchad, ont visé les locaux du commissariat central de la ville et l'école de police. Dans un communiqué, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Hassan Sila, a chiffré le bilan provisoire à au moins 27 morts, dont 4 terroristes et 120 blessés. Les citoyens tchadiens ont condamné cet acte. Ils ont demandé au gouvernement de redoubler de vigilance, signale notre correspondant André Kodmajinga.
Je suis abasourdi et indigné en même temps que des actes comme ça se produisent encore au XXIe siècle. C'est bien dommage que nos systèmes de sécurité laissent entrevoir des brèches pour que les terroristes puissent en profiter. C'est un acte à condamner et ça interpelle également le gouvernement à renforcer les dispositifs de sécurité parce que un marché public ou encore un bus de transport commun pourrait se comprendre aisément, mais dire que ça se passe dans des centres de formation des policiers et même à la direction générale de la police, c'est bien dommage. On connaît leur mode d'opération, ces terroristes. On dit souvent aussi que la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, ils ont planifié cela. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher aux Tchadiens de soutenir les autres frères qui sont dans la même situation. Parce que nous avons toujours été combatifs et on le restera.
Vraiment, c'est un acte déplorable. Je souhaite toutes mes condoléances aux familles affligées. Et ce que je demanderai au gouvernement, doubler d'efforts pour sécuriser la population. Ce n'est pas une surprise. Tout est déjà préparé. Aujourd'hui, c'est le tour du commissariat. Et demain, peut-être que ça sera dans des écoles ou bien dans les marchés. Et ça va être catastrophe.
J'adresse comme ça mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Je me sens vraiment en danger actuellement là où je suis. Il est grand temps que la police et les autres forces renforcent la sécurité parce que à chaque fois, on assiste à certaines fouilles en pleine circulation, mais cela n'est pas suffisant. Il va falloir commander des appareils performants pour pouvoir sécuriser la ville. Sinon, on sera vraiment frappé encore à nouveau par d'autres attentats. Ça, c'est la négligence également de nos forces de l'ordre. Je ne peux pas imaginer qu'à l'entrée du commissariat ou bien au sein de l'école de police, un tel acte se produise. Il n'y a pas de mesure pour pouvoir contrôler ceux qui entrent au marché, par exemple. Il va falloir vraiment étudier un autre système de sécurité pour protéger la population.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au micro, Camille Grosdidier, le président nigérian Muhammadu Buhari entend se rendre au Cameroun pour renforcer les efforts régionaux contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Il l'a fait savoir hier à l'issue du sommet de l'UA de Johannesburg. Le chef de l'État nigérian avait réservé au Niger et au Tchad son premier voyage à l'étranger. Il avait par ailleurs reçu ses homologues tchadiens, nigériens et béninois au sommet du 11 juin à Abuja, une rencontre à laquelle le président camerounais Paul Biya était absent. Au sujet de la visite projetée par M. Buhari au Cameroun, Timothée Donangmai a joint le professeur Manasseh Aboya Ndong de l'université de Douala.
C'est une nouvelle qui a été favorablement accueillie ici au Cameroun, dans une ville comme Douala, où les gens ont appris à mi-journée cette attaque arrogante de Boko Haram en pleine capitale tchadienne. L'annonce de la visite de Muhammadu Buhari au Cameroun est très favorablement accueillie comme une volonté manifeste du président nigérian de poursuivre la coopération régionale sur le plan militaire pour mutualiser les efforts de lutte contre la secte islamiste Boko Haram.
Le Cameroun et le Nigeria ont eu des relations assez compliquées, même face au phénomène Boko Haram, qu'en est-il?
C'est clair qu'on a semblé observer un refroidissement dans les relations entre le Cameroun et le Nigeria. Et notamment, les gens n'ont pas apprécié le fait que le président camerounais ait été absent à l'investiture du président Buhari le mois dernier. Mais quelques jours après cette investiture, le président camerounais a félicité son homologue nigérian à l'issue de l'élection de son compatriote à la tête de la BAD, ce qui indiquait malgré tout qu'il y avait un ballet diplomatique qui se déroulait loin des regards indiscrets, ce qui expliquait et justifiait expressément que le Cameroun et le Nigeria n'ont aucun intérêt à désarticuler les convergences qui doivent guider l'évolution de ces deux pays frontaliers.
Les deux pays ont eu par le passé des différends frontaliers qui ont été tranchés par la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui subsiste de ces contentieux?
Vous savez qu'à l'époque du déclenchement de la guerre Bakassi dont vous faites allusion, c'est le président Buhari qui était au pouvoir et les gens avaient peur qu'à l'issue de sa réélection, il pourrait remettre en cause les acquis de la sortie de guerre qui avait été amorcée à l'arrêt et puis les accords de Green Tree. Mais je pense que c'est un nouveau Buhari qui est à la tête du Nigeria, qui n'entend pas revenir sur le passé et qui entend poursuivre la consolidation et la pacification des rapports entre les deux pays. Et vous savez très bien que l'un des artisans de ces accords était Olusegun Obasanjo, qui était l'une des personnalités qui a posé sa caution pour que Buhari revienne au pouvoir. Tout le monde essaierait, dans la perspective de ne plus revenir dans le passé, mais de poursuivre des convergences vers la consolidation des liens pacifiques entre les deux pays.
Le professeur Manassé Aboya Ndong de l'Université de Douala au Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Ici Washington, concert de condamnation après le retour à Khartoum du président Omar Hassan al-Bashir. Ce dernier a pu partir du sommet de l'Union africaine à Johannesburg en dépit d'une décision judiciaire le sommant de ne pas quitter l'Afrique du Sud. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le chef de l'État soudanais devait demeurer sur place jusqu'à ce que la justice détermine s'il devrait être arrêté ou pas en rapport avec son inculpation par la Cour pénale internationale de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit du Darfour en 2003. Au lieu de cela, il a repris son vol pour Khartoum où il s'était crié à sa descente d'avion « Dieu est le plus grand ». Ce n'est pas la première fois que le président soudanais défie l'ACPI en se rendant à l'étranger. Les États-Unis ont déploré le fait que l'Afrique du Sud l'ait laissé regagner son pays. « Nous sommes déçus qu'aucune action n'ait été prise », a déclaré le porte-parole du département d'État. À Genève, le secrétaire général de l'ONU s'est lui aussi exprimé sur ce dossier. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président al-Bashir pour crime contre l'humanité et crime de guerre est une question que je prends très au sérieux. L'autorité de la CPI doit être respectée et sa décision appliquée. Même son de cloche du côté du procureur adjoint de la CPI. Je pense que je peux m'exprimer au nom de la procureure en disant que nous sommes déçus. L'Afrique du Sud est un État parti qui a toujours fermement soutenu la Cour pénale internationale et de notre point de vue, son obligation était claire. Son obligation était d'arrêter le président al-Bashir. Prenant le contre-pied de la vague anti-al-Bashir, l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a appelé le gouvernement sud-africain à défier le mandat d'arrêt contre le chef de l'État soudanais. L'immunité a été accordée à tous les participants au sommet de l'Union africaine, conformément aux normes internationales observées par les pays organisant de telles rencontres, a ajouté l'ANC dans son communiqué. Selon les Nations Unies, le conflit de la région soudanaise du Darfour a fait 300 000 morts, des civils pour la plupart, et plus de 2 millions de déplacés. Le président al-Bashir dirige le Soudan depuis 25 ans. Son pouvoir n'a pas été entamé par des multiples rébellions, mais est affecté par les sanctions internationales et la perte de revenus pétroliers suite à l'indépendance du Soudan du Sud.
Camille Grodidier avec vous. La 7e législature béninoise a investi son président officiellement dans ses fonctions ce 15 juin 2015. Adrien Oungbedji, pour l'occasion, a invité ses pairs de la sous-région, notamment de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Gabon et du Sénégal. La deuxième personnalité du pays a fustigé la multiplication sans limite des partis politiques au Bénin, signale notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Maître Adrien Rungwedji, âprement élu président du bureau de l'Assemblée nationale béninoise dans la grosse frayeur de la nuit du 19 au 20 mai 2015 avec un score à l'arraché 42 à 41, a été investi dans ses fonctions ce 15 juin 2015. Une foule immense faite de curieux, de personnalités de la République, de députés, de parents et amis et surtout de présidents de parlements africains a envahi la cour intérieure du palais des gouverneurs à Porto Novo pour l'occasion. Le président nouvellement élu, après avoir adressé ses remerciements à tous, s'est étendu sur le nombre sans cesse croissant des partis politiques au Bénin.
Je veux proclamer ici l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie de notre système partisan. Aboutir à un nombre très réduit de partis politiques au lieu des 200 actuellement dénombrés. Les construire autour d'un projet de société, instaurer en leur sein des règles efficaces d'alternance, assurer un financement public conséquent de leurs activités assorti d'un contrôle non moins public, interdire la transhumance, le tout pour permettre à nos partis d'être de vrais partis qui jouent efficacement leur rôle dans l'animation de la vie politique et dans la conquête du pouvoir d'État.
Après avoir invité ses collègues députés à adopter des comportements responsables qui aideront à changer l'image pas très enviable du Parlement auprès des Béninois, Maître Adrien Rungwedji s'est emporté contre la violence et autres actes barbares qui menacent la paix dans le monde.
Notre législature débute dans un contexte où partout dans le monde, la paix et la sécurité sont menacées. Nous assistons impuissants à la montée des fondamentalistes religieux. L'intégrisme gagne du terrain avec pour corollaire la violence, les attentats ciblés, les enlèvements et de lourdes pertes de vies humaines. Cette situation nous interpelle, nous autres députés. Il est de notre devoir de nous engager pour la paix, non pas seulement à l'intérieur de nos frontières, mais au-delà.
Présent à la cérémonie, le président du Parlement gabonais a félicité Maître Adrien Rungwedji pour son élection et lui souhaité plein succès. Mais il a aussi tenu à présenter ses excuses au peuple béninois pour les actes de vandalisme contre l'ambassade du Bénin au Gabon, voici quelques semaines. La nouvelle équipe législative a donc pris son envol pour les 4 prochaines années. Piggy, Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Jeb Bush est officiellement depuis hier candidat à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Timothée Donongmai.
À l'instar de son père et de son frère, Jeb veut lui aussi accéder à la Maison-Blanche. Mais il ne va pas mettre l'accent sur son image d'héritier de la dynastie Bush, mais plutôt sur son expérience de gouverneur. S'adressant à une foule enthousiaste de partisans, M. Bush a déclaré que les États-Unis avaient emprunté une très mauvaise voie et il a blâmé les démocrates pour le renforcement acharné du pouvoir réglementaire et la lente croissance de l'économie américaine. Il a assuré pouvoir faire mieux et dit l'avoir déjà fait en tant que gouverneur.
We made Florida number one in job creation.
Nous avons fait de la Floride le premier État pour la création d'emplois. Toujours est-il que le réseau de donateurs tissé depuis des décennies par sa famille lui a permis de collecter des millions de dollars pour sa campagne avant même qu'il n'annonce son intérêt dans la présidence américaine. Je ne prendrai rien ni personne pour acquis. Je ferai campagne avec mon cœur. Je ferai campagne pour gagner. En mettant en exergue son passé de gouverneur, Jeb Bush entend ainsi, selon l'AFP, associer certains de ses nombreux rivaux qui siègent au Sénat aux dysfonctionnements politiques qui paralysent la capitale fédérale. Nous avons besoin d'un président prêt à perturber cette culture washingtonienne, a-t-il dit. Certains électeurs américains, voire sa mère Barbara, il n'y a pas si longtemps, estimait que 2 Bush à la Maison-Blanche, c'est déjà plus que suffisant. Et puis son frère, dont la décision d'envahir l'Irak a débouché sur une longue et impopulaire guerre de 8 ans, a légué à Barack Obama la pire récession que les États-Unis aient connue depuis plus d'un demi-siècle. Jeb Bush a adopté des positions moins conservatrices que la plupart de ses rivaux républicains sur l'immigration et l'éducation, aux grandes dames des électeurs qui, d'habitude, votent dans les premières consultations électorales de son parti dans l'Iowa et au New Hampshire. Il partait grand favori au début, mais il est pratiquement ex-aequo avec le sénateur de Floride, Marco Rubio, et le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature.
C'est la fin du Monde aujourd'hui. Ici Washington, la Voix de l'Amérique.
cœur de l'info sur VOA Afrique.